Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Bruxelles, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène que vous retrouvez tous les mercredis à 19h sur Radio Campus et en rediffusion le jeudi à 13h30. Avec moi en studio, Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors au programme de cette semaine, des pièces que tu es allé voir, notamment du côté du Méridien, où nous étions timides. On ira voir si les comédiens étaient timides sur cette scène du côté de Watermal Boisfort. Nous irons du côté du Théâtre de la Toison d'Or avec une pièce gourmande de Dominique Breda, Do It. Nous retournerons avec Elisabeth pour le poème 2 avec un philosophe et un perroquet en discussion existentielle peut-être. Et puis nous irons voir Catherine aussi du côté du téléphone qui nous rejoindra pour nous parler d'une autre pièce. On vous laisse la surprise, ce sera tout à l'heure, donc après la pause musicale. Mais tout de suite, on commence donc avec « Nous étions timides » du côté du Théâtre du Méridien.
Voilà, alors « Nous étions timides », mais quand ? Eh bien, en 1960, 59-60, par là. Puisqu'en fait, ce spectacle qu'on doit à Edith de Paul nous ramène au temps où tout était codé, où on savait parfaitement comment il fallait se comporter. Et donc nous avons un couple, monsieur et madame tout le monde, qui sont face à nous dans un décor tout à fait design, qui nous remonte à ces années-là. Et en fait, on démarre tout doucement comme ça par des choses, effectivement, bien codifiées, bien lissées. Et on se dit, oh là là, ça va encore être les marabouts flash, et etc. C'est quelque chose, beaucoup de créateurs ont pioché un peu dans l'ambiance de ces années-là.
Et dans l'esthétique, évidemment.
Dans l'esthétique et tout ça. Et alors, on apprend en fait que monsieur a une passion qui est la danse, madame a une passion qui sont les crêpes, et monsieur et madame aiment bien le frottis-frotta. Donc, ça nous ouvre quand même une perspective et nous voilà vers une évocation vraiment à la marabouflage de la danse. Et ces comédiens, parce que c'est Laurent... Alors, j'ai un peu de mal avec son nom, mais Laurent Capelluto et Muriel Carlay-Rambourg se mettent non pas à dire des textes très très longs. On sent que les textes sont un petit peu prétextes dans l'histoire. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est là pour un peu structurer les choses. Mais ils se mettent en mouvement. Et donc, ça se met à danser. Alors, on passe en revue un peu le foxtrot, le cha-cha-cha, le mambo, enfin, toutes ces danses qui sont bien loin de notre techno. Et on en découvre quelques-unes tout à fait inconnues, en tout cas à mon bataillon. Et donc, on a ces petits flashs de danse qui se mettent en place. Et puis, de temps en temps, on a le frigo qui s'ouvre, on sort les œufs, la farine et on fait les crêpes. Alors jusque-là, quel est l'intérêt en fait de cette chose-là ? C'est qu'on est surtout dans la dentelle tout le temps, qu'on a deux comédiens qui bougent, qui dansent, et qui sont surtout très forts en interaction les uns avec les autres. Et tout doucement, ce spectacle où tout est lisse, tout est glissé, tout est marabouflage comme ça, il va vers autre chose. Mais c'est tout en finesse, c'est tout en dentelle, on ne le voit pas arriver. Et en même temps, on est captivé parce que ça bouge tout le temps sur scène. On a le texte qui revient et puis qui est presque inversé. On sent que la soirée se passe, les choses se passent. Et puis il y a un rapprochement entre monsieur et madame. Et je ne vais pas vous dire comment ça finit, mais voilà. C'est un petit spectacle tout à fait étonnant parce qu'il est un petit peu hors norme, je dirais. Il est vraiment construit sur cette volonté d'Edith de Paul d'amener la danse au théâtre ou le théâtre à la danse. C'est un peu comme on veut, mais il y a les deux qui se rencontrent, qui se mélangent. Et surtout cette interactivité, cette très grande complicité entre deux très très bon comédien. On sent qu'il y a, énormément de finesse aussi dans l'interprétation de Muriel Clarembourg. Ça bouge et puis il se passe plein de choses sans qu'on dise grand-chose. Donc pour des gens qui aiment le jeu d'acteur aussi, il y a énormément de choses à voir, à regarder, à entendre aussi. J'avoue que je me suis levée et que j'avais envie de danser.
Donc c'est quelque chose de très bien chorégraphié, oui, dans la mise en scène et dans le jeu qui amène donc finement cette rencontre et comment se passe l'intime d'un couple.
Corps à corps.
Corps à corps, voilà.
Oui, en direct, mais la morale est sauve, je vous rassure, tout de suite. Mais bon, voilà. Donc, c'était surtout ce passage étonnant de ce qu'on avait, entre guillemets, déjà vu. Et puis, bon, il n'y a pas de souci avec le déjà vu, mais ce côté, je revisite les marabouts flash, les pubs à l'ancienne, les petits bananias, les trucs qui nous paraissent maintenant un peu...
désuets.
Non seulement désuets, mais aussi un peu étonnant parce qu'on a fait du trajet. Si on analyse un peu la pub où maintenant on nous met juste la jambe et on nous vend la voiture, avant on nous expliquait qu'il fallait des vitamines tous les matins. Enfin, tout ce trajet-là, tout ça c'est là, mais c'est finalement pas le propos du spectacle et ça glisse, mais tout en douceur.
C'est l'intime du couple.
C'est l'intime du couple. C'est c'est aussi, je pense, quelque part le plaisir aussi, parce que bon, finalement, que ce soit les crêpes ou que ce soit la danse, ce sont des choses pour le plaisir aussi, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ce code, ou comment est-ce que les choses passent, pas dérapent, parce que c'est pas vraiment un dérapage, mais comment est-ce que les choses peuvent peuvent finalement bien se passer, quoi. Mais c'est ce glissement est vraiment tout, et pour moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est parler de dentelle, en fait. Voilà, c'est une dentelle de jeu, une dentelle de mouvement, un texte très léger, très minimaliste, mais qui a des échos, qui évolue aussi.
Une dentelle chorégraphiée et gourmande également du côté méridien.
Du méridien, et donc c'est jusqu'au 31 mars, et voilà, j'espère qu'il restera quelques places, parce que voilà.
Ça marche bien, en tout cas.
J'ai pris pas mal de plaisir à découvrir ce spectacle-là.
Une mise en scène d'Edith de Paul, rappelons-le, www.théâtredumeridien.be. Eh bien, on va rester un petit peu dans le plaisir de bouche, avec Do It, le nouveau texte, nouvelle pièce de Dominique Bréda. Dominique Bréda, on en a beaucoup parlé.
L'enfant chéri
de la plume comique grinçante bruxelloise, qui nous revient ici avec un nouveau spectacle du côté du théâtre de la Toison d'Or. Alors, son point de départ est assez intéressant, en fait. On suit Annie, interprétée par Nathalie Huffner, directrice du TTO, qui, à la cinquantaine, a atteint le poids qu'elle avait toujours rêvé d'atteindre, c'est-à-dire ses 130 kilos. Pourquoi ? Parce qu'elle vit dans une société où la rondeur est mise en avant, et symbole de réussite sociale et professionnelle aussi parfois.
Un peu comme au temps de Rubens.
Voilà, donc les femmes et les hommes bien en chair, puisque son fils également, lui aussi, atteint la centaine de kilos, et est fier de cette réussite sociale. Mais à 50 ans, on se pose des questions. Parfois, on se dit, est-ce que je ne suis pas trop grosse, finalement, trop gros? Devrais-je perdre des kilos? Alors, cette réflexion amène son entourage à se poser des questions, parce qu'ils disent, mais pourquoi elle, qui a tant réussi, qui est une bourgeoise bien ancrée dans sa villa contemporaine avec son fils et qui vit heureux, mais non, elle n'est pas si heureuse finalement. Son médecin l'envoie vers une psychologue pour essayer de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être, cette grosseur non acceptée dans une société où on l'accepte parfaitement. Eh bien, c'est le questionnement un peu de cette pièce et de cette femme qui va rencontrer une jeune fille interprétée par Julie Duroisin et qui, elle, est justement une allumette, quoi. Vraiment, une fille.
Elle n'a pas 50 ans non plus.
Elle n'a pas 50 ans non plus. Mais les rôles vont s'inverser. Elle va se prendre l'affection de cette fille qui est un peu... mal barrée dans la vie, elle n'a pas d'endroit où dormir, elle va l'héberger chez elle. Et les choses vont s'inverser. Celle qui voulait cacher ses rondeurs, eh bien, s'évertue à faire régime, et l'autre, eh bien, commence à s'installer, à s'empâter, comme on dit si bien. Et voilà, donc c'est un peu le fond de cette pièce. Une pièce qui vaut surtout peut-être pour le duo, parce que c'est surtout sur ça qu'on a communiqué, c'est le retour du duo Laurence Bibot qui fait la psychologue un petit peu New Age stage de ce spectacle, et avec Nathalie Huffner face à elle. Et c'est un peu le défaut pour moi de cette pièce, parce que trop centrée sur ce duo-là, et qui efface complètement les deux autres personnages, le fils interprété par Jean-François Breuer et la jeune fille, donc Julie Duroisin, qui sont des habitués de Dominique Bréda. Ouais. Et ces deux rôles, eh bien, arrivent tout à fait à être cachés par ce duo trop à l'avant de Laurence Bibeau et de Nathalie Huffner, qui malheureusement ne jouent pas forcément leurs personnages, puisqu'elles sont elles et telles qu'on les a connues. Et c'est toujours un petit peu la même chose, je serais obligé de dire, autour de ces personnages. On s'attend à voir Laurence Bibeau faire ces mimiques-là et Nathalie Huffner à faire cette bourgeoise un petit peu précieuse qui a un peu de mal.
Une recette qui marche.
C'est une recette qui marche, peut-être pour le TTO, qui est supposée marcher. Malheureusement, par rapport à la production de Dominique Bréda, je trouve que c'est un spectacle plutôt décevant, parce qu'il ne va pas non plus au bout de son propos, avec une fin tout à fait étonnante de par sa survenance comme ça, qui surgit, et qui, on sait que Dominique Bréda aime bien les fins qui vont à l'encontre du fil du récit, mais là franchement, peut-être qu'il aurait fallu quand même une demi-heure en plus pour pouvoir l'amener, cette fin. Alors c'est ça qui est un peu embêtant, et de même que ce propos qui est un bon point de départ, hein, dans, justement, et qui prend à revers la société actuelle, qui met le mince à l'avant et la maigreur, eh bien, ça ne marche pas. C'est désolant, en fait.
Et pratiquement, comment est-ce qu'on réalise l'empattement, par exemple, de Julie Duroisin ?
Alors, ils sont tous munis, à mon avis, de coussins.
Voilà.
Oui, les dames ont des arrière-trains assez bien fournis. Ouais. Et Jean-François Breuer, dont justement le rôle de fils et de questionnement n'est pas très bien abordé, n'est pas très bien amené, non pas par son jeu, mais par le rôle qui a été écrit comme ça. Voilà, c'était une déception, parce que franchement, on suit souvent Dominique Bréda, on reconnaît qu'il a une plume grinçante qui est ici également présente, mais pas jusqu'au bout. Et c'est ça que la deuxième partie du spectacle est un peu décevante, et la fin également.
Bah, il faudra qu'il nous revoie sa copie.
Voilà, le spectacle est sur notre fin.
Voilà,
peu.
Oui. Mais il me semble que j'ai vu qu'il y avait New York qui était reprogrammé bientôt.
Alors ça, c'était beaucoup plus intéressant. Voilà. C'est ce que j'allais venir. Donc, Do It, pour terminer avec ça, ça se poursuit jusqu'au 31 mars du côté du Théâtre de la Toison d'Or, www.ttotheatre.be. Pour New York, il faudra attendre encore quelques semaines, puisque ce sera à partir du 17 avril du côté des Riches Clairs. Et là, on en reparlera, bien évidemment. On l'a déjà vu, c'est une reprise de l'année dernière.
C'est
du bon Bréda qui questionne vraiment jusqu'au bout le thème qu'il a voulu aborder. Et ici, j'ai peur qu'il ait été un petit peu trop vite pour Do It. Voilà. Comme quoi, on ne peut pas être bon à chaque fois, mais on continuera bien sûr à suivre cet auteur majeur de la scène comique bruxelloise.
La conspiration.
On est de retour dans La conspiration des planches. Elisabeth est toujours en studio.
Mais oui, toujours.
Voilà. Et on retrouve Catherine au téléphone également. Bonjour Catherine, ça va ?
Ça va.
Alors, avant de te retrouver, on va retourner avec Elisabeth du côté des théâtres, et ce sera du côté, je ne sais plus maintenant.
Du poème 2.
Du poème 2, voilà. Le philosophe et le perroquet de Jacques Socher.
Mais oui, c'est un must dans cette université, bien sûr, puisque Jacques Socher est en réalité un jeune auteur dramatique, contrairement à Dominique Bréda, qui lui est un auteur dramatique chevronné. Nous avons là un jeune auteur dramatique qui a écrit 3-4 textes, et c'est un de ses textes là. Alors le titre est assez clair, ça s'appelle Le philosophe et le perroquet, et en fait dans ce spectacle, dans ce texte, Jacques Socher revisite un peu le triangle amoureux. Alors généralement on a le mari, la femme et l'amant, ben là on a le philosophe, la femme qui est une jeune beauté africaine, et le perroquet. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout d'un coup, ce couple qui s'entend bien, qui a une vie sexuelle absolument trépidante, et tout ça, tombe à l'eau, j'allais dire, parce que arrive par la fenêtre, miraculeusement, un perroquet d'Amazonie. Alors, un perroquet d'Amazonie, c'est tout en couleur, mais que fait ce perroquet-là ? Et immédiatement, la femme le prend en grippe. Tandis que le philosophe, finalement, commence à dialoguer avec le perroquet. Et donc on parle perroquet.
On parle philosophie.
Et on parle philosophie, évidemment, parce que quand un philosophe rencontre un perroquet, ça parle philosophie. D'autant plus que peut-être que le perroquet, il en sait un bout sur la philosophie. Enfin voilà, donc ça c'est un petit peu comment ça se retourne. Alors scéniquement, c'est proposé avec beaucoup d'emballage. Il y a une musique assez forte, il y a beaucoup d'effets visuels. On a comme ça des jeux d'ombre aussi et tout ça. Donc on a cet emballage omniprésent et on a un perroquet sur scène. Alors ça, c'est déjà une première question. Comment est-ce qu'on va régler ça? Mais là, ça a été réglé par la présence d'un chorégraphe, en fait. Donc d'un danseur qui n'est pas, on va dire, pas un jeune danseur. C'est quelqu'un qui est plutôt retraité comme danseur, mais qui incarne ce perroquet avec beaucoup de grâce, finalement.
Francis Pedros, donc.
Voilà, tout à fait. Et en fait, on arrive effectivement de temps en temps à retrouver la dynamique du perroquet, etc. Et donc, voilà.
Mais il ne fait pas que danser, il joue donc.
Il ne fait pas que danser, il fait très bien « Jacques, est content !» et des choses comme ça. Donc il y a aussi effectivement, il y a aussi des bruits du perroquet qu'on retrouve aussi. Donc il y a quelque chose d'assez réussi de ce côté-là. Par contre, malheureusement, et j'avoue que ça m'a vraiment gâché mon plaisir, c'est que je trouve qu'il y a vraiment énormément de surjeux. Il y a aussi le personnage de la femme qui est dans cette colère, qui n'accepte pas cet intrus dans le couple, etc., et qui reste comme ça sur cette colère longtemps. Et là, on voit que c'est un jeune auteur dramatique, parce que moi, ce que j'aime bien au théâtre, c'est de voir l'évolution des personnages, etc. Et là, c'est un peu court, me semble-t-il.
C'est assez linéaire, donc.
C'est assez linéaire, c'est la colère tout le temps. Il me semble, le seul moment que, bizarrement, j'ai bien retenu en tête, c'est le seul moment où il n'y a pas cette colère, et puis voilà. Mais donc, il y a ce surjeu, et je trouve personnellement que le théâtre y a laissé quelques plumes. Même si le texte parle de philosophie sans que ce soit pesant, on retrouve évidemment le côté malicieux de Jacques Chaucher.
Et au niveau du fond philosophique, il y a un vrai questionnement qui est posé?
Mais pour moi, j'étais tellement coupée des comédiens par ce surjeu que j'ai un peu loupé le fond du texte. Bon, c'est l'histoire un peu de l'arroseur arrosé, c'est du philosophe qui croyait tout savoir, et puis finalement, il y a le perroquet qui vient lui faire la leçon, etc. Bon, voilà, il y a des évocations, on parle bien évidemment du perroquet de Flaubert, etc. Mais je pense que c'est un texte qui est accessible, même sans référence, parce que j'avoue que j'ai pas lu le perroquet de Flaubert, mais voilà. Mais bon, ce surjeu, non, franchement, c'était trop, quoi, voilà. C'est vraiment, et c'est dommage parce que peut-être que ce texte avait aurait pu tenir la route théâtralement, je parle, hein, philosophiquement, c'est autre chose, sans doute, qui nous dit, quand on lit un peu les propos de Sacher, c'est d'ouvrir la cage et de prendre sa liberté, ben voilà, moi je prends la liberté de dire, arrêtons de surjouer, quoi.
Une mise en scène de Dolores Oscari, donc la directrice du poème 2. Et on retrouve sur scène Franck d'Aquin, les autres...
Cyperius,
et Francis Pedros, dans une scénographie de Dominique Fournal. Le philosophe et le perroquet de Jacques Chaucher, c'est donc à voir du côté du poème 2, et c'est jusqu'au 25 mars.
Voilà, alors attention, le 25, c'est par exemple à 16h, et puis les autres jours, c'est à 20h, donc c'est des heures un petit peu particulières.
Voilà, 02 538 63 58 pour les réservations. On se retourne maintenant du côté du téléphone, Catherine est toujours là. Oui, voilà. On va parler d'un festival, de deux festivals, mais d'abord un premier avec différents spectacles que tu as vus pour nous.
Oui, ça s'appelle le festival Nous Autres ici, au Hall de Schaerbeek. Alors, c'est un festival qui regroupe quatre seuls en scène et un spectacle de cirque avec des histoires issues de l'immigration. Alors déjà ça, je trouve moi que ça pose question. Est-ce que mettre tous ces seuls en scène... d'artistes dans le même panier parce qu'ils s'appellent Ben Hamidou et Jamila Drissi, Noara Naghouch. Est-ce que c'est pas un petit peu les stigmatiser une nouvelle fois, ou est-ce qu'au contraire c'est nécessaire pour parler d'un thème, l'immigration, qui fait partie de notre culture? Voilà, j'avoue que c'est une question que je ne sais pas moi trancher, mais qui pose débat.
Mais c'est peut-être un festival qui met en avant des histoires également, des histoires personnelles, c'est peut-être ça aussi.
Tout à fait, qui met en avant des histoires personnelles qui tournent toutes autour du même thème avec plus ou moins de subtilité. Alors justement, je suis allée voir à Paris un spectacle qui s'appelle Sacrifice, d'une artiste qui s'appelle Noara Naghouch, qui est alsacienne et qui a vécu dans une banlieue à Colmar, donc une riche ville d'Alsace. et qui raconte son enfance dans cette ZUP, donc zone urbaine prioritaire, avec le portrait de sa mère notamment, qui est plus ou moins séquestrée par un mari violent qui la bat et qui se bat malgré tout pour élever ses enfants. Elle incarne aussi la voisine alsacienne hyper raciste qu'on imagine aisément être le péniste avec tous les préjugés qu'elle a sur les maghrébins qui foutent rien, qui sont des assistés, qui brûlent des voitures. On a aussi le portrait d'une espèce de rappeuse banlieusarde avec sa capuche.
Aïe, aïe, aïe. Voilà. Est-ce que ça sent pas un peu les clichés, ça?
Alors, tout à fait. Moi, c'est le reproche que je fais principalement à ce spectacle. Pourtant, l'artiste dit que tout est vrai. Donc, c'est malheureux, c'est une histoire douloureuse. Mais je trouve qu'elle aurait pu en faire un univers un petit peu plus subtil, nuancé, travaillé. Malheureusement, elle ne fait que colporter, perpétuer, je dirais, des clichés qu'on a déjà mille fois entendus. En plus, dans un style qu'on connaît aussi, donc le style presque du sketch, hein, du stand-up, un peu à la Jamel Debbouze, mais en féminin. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça un petit peu éculé comme genre de spectacle. Et dans le même genre, moi je conseillerais d'aller voir plutôt L'Insoumise,
oui,
ou Scarlett O'Hara au pied des périls, qui est un autre seul en scène programmé dans le festival.
Qui a très bien tourné, hein, dont on a déjà parlé ici, c'est Jamila Drissi.
C'est Jamila Drissi, elle a été nominée au prix de la critique, comme meilleure seule en scène. Et alors, elle parle de son enfance dans le Borinage, de son père qui travaillait dans les mines et de sa mère qui, tant bien que mal, élève une famille nombreuse. Mais sauf que la différence ici, c'est qu'elle a tissé son histoire dans un univers qui le transcende en faisant référence à l'univers des westerns, de Hollywood, de Haut en emporte-le-vente, voilà, des cow-boys, des indiens, parce que elle raconte ça du point de vue de l'enfant et elle, évidemment, fantasmait tout ça.
Donc elle a placé ça dans un enjeu créatif également, qui est plutôt de placer ça dans un univers différent, finalement, du thème qu'elle veut développer.
C'est ça, donc on est dans les mêmes thèmes, hein, d'une famille assez pauvre, d'une famille qui est aussi issue de l'immigration, mais sauf qu'elle a dépassé ça et elle nous accroche en plus avec des images qui convoquent aussi les westerns. Voilà, je trouve qu'on a dépassé, on a transcendé, on a sublimé une histoire et ce qui la rend beaucoup plus intéressante, évidemment. Donc vraiment, ça, L'Insoumise, c'est à voir. Peut-être rapidement aussi, il y a Sainte Fatima de Molène, de Ben Hamidou.
Oui, qu'on a pu voir déjà.
Voilà, son enfance à Molenbeek. Et il y a aussi deux spectacles, en tout cas un spectacle qui vient de France et qui mêle le hip-hop et le théâtre. Ça s'appelle Faut qu'on parle. Et c'est Hamid Ben Maï qui raconte son quartier, sa banlieue, les habitants d'origine immigrée, arabe, les clichés, le racisme, la guerre d'Algérie, mais dans un style qui mêle le hip-hop au théâtre, ce qui n'est pas tout à fait habituel. Et puis enfin, il y a un spectacle de cirque, donc What If, d'une artiste britannique, mais qui est née d'un père saoudien. Et donc, elle imagine un père qu'elle n'a pas connu, mais dans ce spectacle-là, elle utilise le trapèze, notamment, et une corde voilée, donc pour interroger le voile, mais aussi les questions d'identité, du regard des autres. Est-ce qu'elle aurait porté le voile si elle avait connu ce père saoudien? Est-ce qu'elle serait devenue trapéziste? Donc voilà, c'est un spectacle qui a l'air assez intriguant d'aborder cette question du voile par la voltige, par le trapèze.
En tout cas,
ça a l'air assez passionnant.
À t'écouter, Catherine, on a l'impression aussi que les abords de l'immigration sont différemment perçus également du côté de la France, qui a vécu ça de manière différente qu'en Belgique, avec des gens plus ancré peut-être dans la ville ou dans les communautés, alors qu'en France, il y a souvent cette allusion banlieue, et parce que ça a été géré différemment. C'est aussi voir les différentes faces de l'immigration en Europe. Alors, les détails pratiques peut-être pour ce festival?
Oui, donc ça se joue du 21 au 31 mars.
Et ce sera du côté.
Un ou deux sur l'antenne par soir, et c'est au hall de Scarbeck.
Au hall de Scarbeck, www.halloplurielle.be. Avant de te dire au revoir, Catherine, une petite annonce. On reste dans le cirque, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, avec le festival Piste de lancement.
Oui, le festival Piste de lancement, c'est pour tous les fans de cirque qui veulent découvrir ce qui se fait par les jeunes artistes d'aujourd'hui. Mmh. Alors, plein de choses. D'abord, c'est organisé par l'Espace Catastrophe, qui est un lieu ultra sympathique. Qui cette année se décline dans plein de lieux de Bruxelles, donc au Théâtre Varia, au Théâtre Marny, à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, à l'Espace Catastrophe, au Parc Victoria. Enfin, voilà, j'en oublie, mais sur www.catastrophe.be, vous aurez tous les détails. C'est fait de soirées composées avec des petits numéros ou de spectacles à part entière. Il y a un focus flamand, plein de formes chorégraphiques ou plutôt humoristiques. Voilà, je ne peux pas tout détailler, mais c'est absolument passionnant pour tous ceux qui suivent le cirque contemporain. Et ça se joue du 21 mars au 5 avril.
Parfait, merci beaucoup Catherine pour ces annonces. Une dernière annonce avant de se quitter avec Elisabeth du côté de l'arrière-scène.
Oui, voilà, alors on a jusqu'au 24 mars une comédie, Les Amis de Carole, écrit et mis en scène par Christian Dalimier. Et c'est surtout un spectacle qui explore un peu les rouages de la comédie et qui nous permet de voir non pas un duo mais un trio. En fait, ils sont cinq comédiens, mais il y a surtout le plus gros du moment sur la scène. On a Laurence Warin, Thibaut Neff et Catherine de Crolier, et c'est trois bons comédiens quand même qui ont chacun des présences et des moteurs différents, mais entrent très bien dans cette proposition de Christian Dalimier, qui est en fait une comédie sur les faux fuyants. C'est en fait un peu dans le besoin qu'on reconnaît ses vrais amis, donc ça c'est un petit peu la thématique, ce qui en fait une comédie assez mordante où on se prend plein de choses sur la tronche et voilà, mais ça fonctionne bien parce que c'est vraiment trois très, très bons comédiens qui sont sur scène le gros du temps. Il y a encore Sophie Schneider et Christian Dalimier qui viennent un petit peu au début et à la fin, mais voilà, donc c'est une comédie qui se laisse regarder et le public ne boude pas son plaisir à l'arrière.
C'est jusqu'au 24 mars.
C'est jusqu'au 24 mars.
Et du côté de l'arrière-scène, hein, allez, très très vite encore une annonce, le début du nouveau festival de danse des Brigittines, In Movement, hein, bien évidemment, qui réunit les chorégraphes qui ont déjà une maturité, mais aussi des spectacles de jeunes créateurs. C'est Patrick Bonté qui est derrière ce festival. On découvrira entre autres un spectacle de la compagnie Mossou Bonté, Lisbeth Gru également, Michel Andemé, Mauro Pacaniella, qu'on a pu découvrir également du côté du Marny. Bref, pas mal de choses à voir du 22 au 31 mars du côté des Brigittines, www.brigittines.be. Merci Catherine encore.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. Merci Elisabeth. Et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres scènes sur Radio Campus avec le générique qui part à toute vitesse. Et pour vous dire également que le podcast de cette émission, vous la trouverez sur demandezleprogramme.be et le contenu de cette émission www.radiocampusbruxelles.org. Très belle semaine à vous.
Constelación.